Merci pour votre brillante exposé sur la pertinence de la question UPU. Vous savez que c'est une nouvelle, c'est un nouveau mécanisme qui vient d'être créé au sein des Nations Unies et que beaucoup des ONG que nous sommes n'avions pas encore beaucoup d'expérience là autour. Et la crainte que vous entendez les ONG vous présenter, c'est que nous voulons la garantie de sécurité des ONG. Parce que d'abord, un, les ONG par pays ont des forces, ont des faiblesses. Et ils sont mal écoutés dans leurs États parce que les États croient que les ONG qui parlent de droits de l'homme, c'est les premiers ennemis de nos gouvernements dans nos pays respectifs. C'est pourquoi nous pensons que, avec l'approche de l'UPU vers les ONG, nous voudrions aussi que ces formations que nous, en tant qu'ONG de la société civile, bénéficions, que aussi l'UPU aussi essaie de faire aussi les mêmes formations de relégation au niveau de nos États. Enfin, que les États sachent que la collaboration entre le gouvernement et les ONG est une obligation impérative avec le système de l'UPU. Parce que y a des autres qui font dire, envoyez-nous vos rapports. Est-ce que le rapport que je vais envoyer va croiser mon État? Et l'État saura toujours quelle est cette ONG qui l'a faite. Et en fin de compte, quelle serait ma protection de sécurité? Parce que nous, au Sud, vous savez comment est-ce que les ONG sont traitées. Le temps que vous avez l'information, on vous dit que je suis séquestré quelque part. Or, le même jour qu'on m'a pris, on m'a déjà enterré. Mais on continue à faire croire que non, je suis gardé dans des geôles. Et après investigation, on n'a pas de traces. C'est le cas aujourd'hui, vous connaissez bien, du premier défenseur des droits de l'homme du Congo démocratique, notre très cher frère Chabeya, qui fait aujourd'hui beaucoup de polémiques. Oui, nous sommes bien volontiers à nous engager. Mais nous voudrions aussi que les recommandations partent par le haut de l'implication des ONG. Voilà un peu, je voulais formuler l'implication à la formation des gouvernements sur le mécanisme de l'EPU pour favoriser la bonne collaboration avec les ONG défenseurs des droits de l'homme pays. Merci.
Peut-être c'est quelque chose auquel on peut penser collectivement. Quelles sont les bonnes pratiques? Quels sont les meilleurs exemples, du moins les pratiques les plus constructives en matière d'engagement d'un gouvernement avec sa société civile? Et c'est quelque chose qui pourrait vraiment émerger d'un groupe d'ONG comme celui-ci. C'est quelque chose auquel on a essayé de penser au niveau genevois en fonction de notre expérience. Mais si vous-même vous pouviez compiler les choses dont vous avez besoin par rapport à l'engagement de vos gouvernements respectifs, par rapport aux besoins de vous protéger même, ça pourrait être quelque chose qui aurait beaucoup plus de valeur et qu'on pourrait utiliser, je pense, collectivement comme un suivi potentiel de cette formation et de l'examen de vos États respectifs. C'est une très bonne suggestion, effectivement.
Merci. J'ai juste une question en ce qui concerne l'examen périodique universel. Et c'est vrai que les ONG, surtout en ce qui concerne les questions autochtones, doivent s'organiser d'abord au niveau local avant de venir ici à Genève pour se faire entendre, comme on dit. Mais il y a aussi le manque d'informations au niveau national, surtout en Afrique. Il y a beaucoup de difficultés en ce qui concerne l'information. On n'est pas au courant de ces questions sur le système des droits de l'homme. Et une fois arrivé à Genève, il y a plusieurs formations à ce sujet. Et déjà, il y avait la situation sur laquelle on est déjà au fait, et surtout pour les questions autochtones. Mais il y a plusieurs mécanismes aussi auxquels on peut assister. Il y a par exemple le mécanisme d'experts pour les peuples autochtones et plusieurs recommandations ont été faites dans ce sens-là. Mais ma question, c'est au niveau toujours des populations autochtones et des relations entre pays, qui est une question toujours très délicate. Les autochtones ont des difficultés en ce qui concerne l'exploitation, l'appropriation des terres, l'environnement. Donc je ne sais pas si les réponses se trouvent au niveau du mécanisme d'experts ou bien l'EPU peut répondre à ces questions-là ou bien fournir un terrain de se faire entendre mieux que les autres mécanismes. Donc c'est très délicat et on se pose des questions. Merci.
Je pense que l'EPU lui-même ne permet pas de répondre aux problèmes, mais permet de soulever les questions auprès de votre gouvernement et de les soulever de manière très visible. Et même si votre gouvernement accepte une recommandation, il ne s'agit pas non plus de la résolution du problème. Donc il faut vraiment voir que l'examen périodique universel est un outil de pression politique visant à plus de transparence et plus d'engagement pour de la part de votre gouvernement. Il faut vraiment se limiter. Il faut pas avoir, encore une fois, il ne faut pas avoir des attentes démesurées par rapport à l'impact que ça peut avoir, puisqu'il faut que la pression politique existe, soit bien formulée par les États qui contribuent à l'examen de votre pays. Et puis, il faut aussi que votre gouvernement accepte la recommandation. Est-ce que la pression politique sera assez forte pour qu'il l'accepte? Et puis ensuite, la troisième condition, c'est la mise en œuvre. Et encore une fois, ça implique un besoin de pression politique suffisamment forte de la part des États qui ont formulé la recommandation pour que des étapes concrètes soient prises pour la mettre en œuvre. Donc, c'est un espace où la pression politique peut s'agglomérer, plus qu'une réponse au problème. Donc, ça soulève les questions, ça permet d'agglomérer la pression politique, mais encore une fois, utiliser le PU lui-même tout seul n'est jamais une réponse définitive à un problème. Et je pense que ça correspond à ce que vous aviez soulevé auparavant. Donc il faut vraiment voir le PU d'après cet angle-là. Sinon, évidemment, en tant qu'ONG, on sera largement déçu par le résultat. Et lorsqu'on utilise le PU, ça ne veut pas dire de ne pas utiliser les autres mécanismes qui ont aussi une valeur ajoutée propre. Le mécanisme d'experts sur les populations autochtones est l'un d'entre eux. Les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme, que vous connaissez et que vous utilisez sûrement déjà régulièrement, ne doivent aussi pas être négligés. Donc il faut vraiment utiliser. C'est un outil supplémentaire dont la valeur ajoutée est vraiment la pression politique de la part d'autres gouvernements. Ce qui est quelque chose, la pression politique, je voulais dire, est quelque chose qui manque radicalement en ce qui concerne les autres mécanismes d'experts qui sont ceux de l'ONU en matière de droits de l'homme. Le PU, à l'inverse, dispose de cette pression politique, mais manque de l'approche d'expertise qui est celle d'autres mécanismes.
Donc, c'est bon. Thank you very much, Philippe. Thank you very much also for all the questions. And regarding indigenous peoples, we work a lot with that, so we could talk about that on the side in the afternoon or evening of what's possible in Geneva, but also in New York at the Permanent Forum on Indigenous Issues. But thank you, Philippe, very much for coming and speaking with us.